l'évangile de Matthieu, chapitre 28, donc le dernier chapitre, verset 16, la fin du chapitre. Un texte bien connu. Matthieu, chapitre 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Voilà Jésus qui donne une feuille de route non seulement aux 11, mais à l'Église naissante. Et cette feuille de route ici, c'est de faire des disciples. Dans Marc chapitre 16, à la fin, on a aussi cette feuille de route, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. C'est plutôt la proclamation de la bonne nouvelle. Ici, c'est faire des disciples. Bien sûr, les choses se rejoignent. Est-ce que l'Église remplit sa mission de faire des disciples? Notre Église locale fait-elle des disciples? Suis-je devenu un disciple de Jésus-Christ? Suis-je en train de devenir un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que être un disciple de Jésus-Christ, c'est un objectif pour ma vie? Voilà toutes sortes de questions qu'il est bon de se poser. Et pour pouvoir y répondre, il importe bien sûr de comprendre ce que Jésus entend par un disciple. Le mot disciple se trouve beaucoup dans l'Évangile. On le trouve dans le livre des Actes et puis il disparaît. Ensuite, les chrétiens sont appelés frères, saints, fidèles, croyants, enfants, enfants de Dieu, bien-aimés. Enfin, il y a toutes sortes, mais le mot disciple disparaît, mais la notion, elle demeure. Du temps de Jésus, il était fréquent d'observer des élèves avec leur maître, des disciples avec leur rabbi. Le disciple était donc un élève attaché à un maître, et ce maître lui enseignait tout son savoir, de manière théorique et sur le plan pratique. Ça pouvait être sur un domaine médical, sur un plan philosophique, ou bien sûr sur un plan spirituel. Les pharisiens avaient leurs disciples, les rabbis pharisiens. Les Jean-Baptiste a eu ses disciples, et bien sûr Jésus a eu les siens. La différence pour le disciple de Jésus-Christ est que nous avons un maître qui est unique, avec un enseignement unique, une manière de faire unique, un objectif et une vocation unique. Aussi, le disciple de Jésus-Christ sera forcément différent de tout autre disciple. Comment le définir et le comprendre? Le disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui va se laisser former et modeler intérieurement au point de ressembler à Jésus, dans sa manière de vivre, dans sa manière de parler, dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de penser, dans sa manière de réagir, de se comporter, de raisonner. Rappelons-nous que le but du salut, c'est de devenir semblable à Jésus. Mais il ne faut pas attendre d'être là-haut pour chercher à devenir semblable à Jésus. Le but de Dieu, c'est que déjà ici-bas, nous devenions semblables à lui et que nous portions bien notre nom, des chrétiens, des petits Christ. On veut refléter l'amour et la gloire de Jésus. Mais c'est bien là le but. Luc chapitre 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli, terminé, fini, sera comme son maître. » Alors, quelques réflexions pour devenir disciple. Et la première chose que je dirais, devenir disciple n'est pas possible sans nouvelle naissance. C'est évident, mais c'est quand même bien de commencer par là. Il y a deux conditions pour devenir disciple. La première, c'est la conversion. Et ensuite, on parle de croissance en Jésus-Christ. Mais ça commence par la conversion. Je me rappelle un jour, je parlais avec une sœur qui avait souvent pris des jeunes sous son aile et qui les avait aidés à grandir, mais elle me parlait un jour d'un échec. Un jeune commençait à fréquenter l'église et elle l'avait un peu pris sous son aile et elle avait commencé à lui parler de consécration, de renoncement. Elle lui avait mis entre les mains toutes sortes de littérature un petit peu costaud, style ciné, vous voyez, un petit peu toutes ces choses-là. Et à un moment donné, le jeune lui a dit, mais ce que tu me dis, je ne peux pas l'avaler, je ne peux pas le gérer. Et il a tout balancé. Pourquoi? Parce que cette sœur a voulu faire de lui un disciple avant de l'amener où elle a brûlé les étapes par rapport au salut. Et il faut bien comprendre que tout commence par la conversion à Jésus-Christ. Si vous voulez grandir en Jésus-Christ, il faut d'abord naître en Christ. Si je veux marcher en Christ, il faut d'abord vivre en Christ. Tout commence là, bien évidemment, nous le savons. Mais pour certains, ce matin, l'appel de Dieu, c'est de donner sa vie à Jésus. C'est de dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, pardonne mes péchés, deviens mon sauveur. Inévitablement, ça commence là. Mais Jésus n'a pas dit, faites des rachetés, sauvez-les. Il dit ici, faites des disciples. Mais il est malheureusement envisageable que quelqu'un naisse de nouveau, mais qu'il ne devienne jamais un disciple de Jésus-Christ. Ça ne devrait pas. Mais dans les faits, ça s'observe. On voit des personnes qui sont authentiquement nées de nouveau, mais il n'y a pas cette croissance en Jésus. Il n'y a pas cette transformation de jour en jour pour devenir semblable à Jésus. Mais Jésus a dit, faites des disciples, pas des rachetés. Pourquoi? Parce que celui qui est sauvé, mais qui ne cherche pas à grandir, je ne suis pas sûr qu'il arrive jusqu'au bout. Mais celui qui cherche à grandir en Christ, à devenir comme le Maître, celui-là, il se donne les moyens pour tenir jusqu'au bout. Dans la Bible, on voit des hommes qui ont bien commencé, qui ont mal fini. Hier, avec les jeunes, on a parlé sur Joas. Joas a bien démarré et puis ça finit mal. Et ça fait mal. Et comme je disais, nous on aime les histoires qui finissent bien. Et on veut que l'histoire de chaque chrétien, elle commence bien. Les conversions, c'est toujours beau. Je ne connaissais pas Jésus. Christ est venu dans ma vie, tout a changé. Mais on veut que ça reste beau jusqu'au bout. Tout en sachant qu'il y a un chemin difficile parfois. Devenir disciple n'est pas envisageable sans le baptême. Jésus n'a pas dit « faites des baptêmes » ou « faites des baptisés ». Mais le baptême est pourtant mentionné ici. Il est parce qu'il est important. Nous le savons, le baptême n'est pas un but en soi. C'est dans ce sens-là que Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17, « Ce n'est pas pour baptiser que le Seigneur m'a envoyé ». Le baptême n'est pas un but en soi, c'est pas la fin, c'est même le début de quelque chose, mais ça s'inscrit dans un processus. Conversion, je m'engage avec Jésus et ensuite je continue de grandir en lui. Et on le sait, mais le baptême c'était la norme de tous les croyants. Dans Actes 2, Pierre dit « Repentez-vous, recevez le pardon de vos péchés et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, etc. » Dans Actes 2, verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Nous le savons, le baptême, il n'a aucune efficacité en soi, mais il s'inscrit dans ce processus, et c'est important. C'était la marque de l'engagement et de l'appartenance à Jésus-Christ. Trois erreurs possibles à éviter autour du baptême. La première, c'est d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit, puis ensuite baptiser. C'est-à-dire quelque part de vouloir faire des disciples avant de les baptiser. L'ordre a son importance. Nous baptisons et on continue d'enseigner les personnes. On ne fait pas des disciples avant de les baptiser. Par contre, il faut bien sûr enclencher pour que le nouveau baptisé devienne un disciple de Jésus-Christ. Et je le dis bien, mais l'autre problème, c'est qu'on a trop de personnes qui se font baptiser et qui ne deviennent jamais des disciples de Jésus-Christ. La deuxième erreur, c'est de ne pas enseigner un minimum avant de baptiser. Il est dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça demande quand même un minimum de compréhension et de connaissance. Ça veut dire quoi? Le Père, le Saint-Esprit, ce n'est pas une formule magique, mais ça demande de connaître le Dieu vivant et vrai, de connaître la personne de Jésus, de connaître l'Esprit. Ça demande quand même un minimum d'expérience et de connaissance au niveau du cœur. D'ailleurs, le mot connaissance, c'est naissance avec. Et dans le livre des Actes, on voit qu'on baptise très vite. Mais il y avait quand même un enseignement intensif. Hein. Passer une soirée avec l'apôtre Paul, et je peux vous dire que ça vaut un bon rythme plusieurs jours chez nous. Hein. Et puis la troisième erreur, c'est de placer l'enseignement comme condition au baptême. C'est l'expérimentation de la vie nouvelle, la condition, si on doit en placer une, elle est là, la condition au baptême. Même si tout ça s'emboîte hein, et se met ensemble. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que devenir disciple de Jésus-Christ ne se fait pas naturellement, spontanément, automatiquement. C'est après la conversion, il y a la nécessité de grandir. Et ça, ce n'est pas automatique. Alors c'est vrai que sur un plan physique, on ne décide pas, aujourd'hui je vais grandir d'un centimètre. On grandit. Mais sur le plan spirituel, c'est un choix, c'est une décision. Et si vous ne décidez pas, si vous ne vous engagez pas, eh bien vous ne grandirez pas. C'est la croissance spirituelle, c'est l'œuvre de Dieu. Comme dira Paul aux Corinthiens, c'est Dieu qui fait croître. Mais en même temps, j'ai ma part, dans le sens de me disposer, dans le sens de me présenter, dans le sens de lui donner les clés pour qu'il me fasse grandir. Et Dieu ne fera pas notre part, ou dans une certaine mesure, il n'ira pas plus loin. Dans le parcours scolaire, il y a toujours un moment donné où il faut se mettre au boulot. Alors pour certains, ils ont de la chance, ça commence en bac plus. Il y en a des fois jusque-là, jusqu'au bac, où ils n'ont pas de soucis, ils n'ont jamais rien bossé. Et puis à un moment donné, dans les grandes écoles, ils sont obligés de se mettre au boulot. Il y en a d'autres, ça commence au CP ou au CE1. Mais il y a toujours un moment donné où il faut se mettre au travail. Et on est obligé de les acquis, les facilités pour écouter, pour enregistrer les leçons, ça ne suffit plus. Et il faut se mettre au boulot, il faut les reprendre. Et bien pour devenir disciple, ça commence dès le début. Dès le début, il faut se mettre au boulot. Dès le début, il faut s'appliquer. Et je dis un mot qui va avec, se discipliner quelque part. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut, j'insiste, venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et je mets en évidence le mot « vouloir ». On n'est pas contraint. Le Seigneur ne nous oblige pas. Même s'il exerce sur nos vies une douce pression. Et on aime. Des fois, je dis, « Seigneur, j'aimerais que tu m'obliges. J'aimerais que je n'ai pas à avoir le choix. » Mais il ne marche pas comme ça. Mais il sait, par l'Esprit de Dieu, exercer une pression sur nos vies. Mais je crois qu'on comprend que... Je me rappelle un jour, je parlais avec des parents, il y avait leur ado qui était là. Et les parents me disaient devant l'ado que, eh bien, il ne faisait pas grand-chose à l'école et les résultats n'étaient pas là. Alors je ne savais pas trop quoi. Hein, je me retrouvais un petit peu en otage là. Alors, mais je pose la question à l'ado. Et je lui dis, tu veux faire quoi plus tard? Et il me dit, chirurgien. Et là, j'ouvre les yeux, j'ai cru qu'il plaisantait. J'ai cru qu'il se moquait de moi. Non, mais il était sérieux. Qu'un enfant vous dise, je veux être cosmonaute, ça fait sourire. Pendant longtemps, mon garçon, il disait, je veux être espion. C'était beau. Mais bon, à un certain âge, les enfants, ils sont sérieux. Mais là, c'était un ado. Et il me parlait sérieusement, il voulait être chirurgien et il n'en faisait pas une à l'école. J'ai failli rire même, tellement c'était gros. Mais parfois, les chrétiens ont un peu ce discours-là, ou on a un peu cette attitude-là. On veut être disciple de Jésus-Christ, mais on ne sait pas lire trois versets à la suite. On a du mal à se discipliner, on a du mal à se tenir devant notre roi. et on n'est pas cohérent. On veut être disciple de Jésus-Christ ou on rêve de grandes choses, mais on ne permet pas à Dieu de pouvoir nous transformer. Une quatrième réflexion pour devenir disciple. Devenir disciple n'est pas réservé à quelques-uns, comme si certains étaient appelés et d'autres y sont laissés sur la touche. Nous ne sommes pas tous appelés à devenir apôtres, pasteurs. Il y a dans Éphésiens chapitre 4 des hommes qui sont donnés à l'Église, où Dieu, dans sa souveraineté, appelle des hommes. D'accord ? Mais on est tous appelés à devenir disciples de Jésus-Christ. Devenir disciple de Jésus-Christ n'est pas l'affaire de quelques élus, de quelques chouchous du Seigneur, de quelques mystiques qui savent capter les choses. Non, non, non. C'est pour chacun d'entre nous. Et l'appel, il est pour chacun d'entre nous. C'est notre responsabilité à chacun. Et ce qui va faire de nous des disciples, ce n'est pas un plan particulier, ce n'est pas un appel particulier, une vocation particulière, mais ce sont des choses très pratiques. Ça commence par une piété quotidienne. Ça commence par laisser Dieu agir dans son caractère à tous les niveaux. Ça commence par mettre Dieu à tous les niveaux. Je suis au travail, mais avant d'être ouvrier HQ ou directeur ou ce que vous voulez, je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis dans mon loisir, mais avant d'être n'importe quel loisir, je suis disciple de Jésus-Christ. Et quand je fonctionne de cette manière-là, et je vais m'y appliquer, eh ben je vais devenir un disciple de Jésus-Christ. Dans ma manière de parler à l'autre sexe, je suis disciple de Jésus-Christ. Derrière un écran, sur les réseaux sociaux, je suis disciple de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on va le manifester. Dans mes démarches administratives, je suis disciple de Jésus-Christ. Ça veut dire que je ne vais pas oublier de déclarer certains revenus. Vous voyez, tout ça, je suis disciple. C'est comme ça qu'on devient disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas réservé à une élite, mais c'est par des choix au quotidien, une manière de vivre au quotidien. J'appuie un petit peu, mais devenir disciple de Jésus-Christ ne se fera pas de manière magique. Ne pensez pas qu'un jour vous allez vous réveiller et hop, je suis devenu super disciple. Ça, c'est bon pour le cinéma, mais ça ne marche pas. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde évangélique, on trouve toutes sortes de prédications avec les clés. Les clés pour devenir, les clés pour triompher. Alors j'ai l'impression qu'avec le temps, il faut un trousseau comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de clés. Alors ça fait un petit peu prédication pré-mâchée, vous voyez. Mais au bout d'un moment, ça fait des enfants. Ouais. Alors après, on est déçu parce qu'on les a toutes essayées, les clés. On n'a pas trouvé la bonne serrure. Et là, je crois qu'il faut faire attention à ça, de penser que quelque part, il y a une clé que je n'ai pas captée, il y a une expérience que je n'ai pas faite, il y a quelque chose que je n'ai pas actionné, c'est pour ça que je ne suis pas devenu un disciple. Alors, je le redis, devenir disciple, ce sont plein de petites choses, et puis c'est un processus qui demande du temps, de l'application, de l'engagement. Allez, je le redis, la discipline. De la persévérance. C'est vrai, nous sommes une génération qui aime les trucs rapides. Les formations rapides. La bouffe rapide. Fast food, kebab, on aime bien. L'information rapide, en temps réel. Le permis en accéléré. On a même le divorce en accéléré aujourd'hui. Mais non. Ça, c'est pas... On aime aller vite, on est comme ça, on a du mal à attendre. Sauf que la nature nous enseigne que tout ce qui pousse vite disparaît vite. En commençant par le champignon. L'expérience me montre que les croissances trop rapides sont souvent suspectes. Et il faut faire attention. Si je veux grandir avec le Seigneur, je veux devenir un disciple, ça va prendre du temps. Ça va demander de la persévérance. Un jour, un jeune homme demandait à un étudiant... Un directeur d'école biblique. Il demandait comment devenir un homme de Dieu, grandir dans la connaissance biblique. Alors le directeur va lui dire, il va falloir étudier tel livre, et puis toute la parole, et puis telle matière, telle discipline, et puis ceci, puis cela. Et puis il lui faisait comprendre que toute la vie, il faudra étudier la parole de Dieu. Alors l'étudiant dira, il n'y aurait pas une formation un peu plus rapide là en 6 mois? Et le directeur de l'école biblique lui répondra, tu sais, il faut 100 ans pour faire un chêne et 6 mois pour faire une courge. Nous, on ne veut pas être des chrétiens courges, d'accord? Mais on veut devenir des chênes qui résistent aux tempêtes, qui tiennent, qui tiennent dans le temps, qui résistent dans la neige, le froid, en tout temps. Jésus dira d'enseigner tout ce que je vous ai prescrit. On comprend que derrière ce tout ce que je vous ai prescrit, il y a du chemin. Rappelons-nous que le salut, c'est une porte, mais c'est aussi un chemin. La porte, on la franchit d'un coup. Mais le chemin, on avance, et jusqu'au bout, on y demeure. Et il y a les deux, hein, parce que là aussi, on aime ce qui est accompli. Je tire souvent dessus, mais l'évangile de la prospérité met beaucoup l'accent sur ce qui est accompli, et même des fois, exagère dans ce domaine. Mais il y a un chemin, il y a des victoires qui ne viennent pas comme ça, mais elles demandent du temps. C'est un vrai combat, ça, c'est un chemin, et ne le perdons pas de vue. Hein, parce qu'on est des fois un petit peu face, on aime bien les délivrances, et ça saute là. Et des fois, ça ne marche pas toujours comme ça, frères et sœurs. Oui, il y a des moments où le Seigneur, il sait intervenir. Mais il y a des fois, il faut creuser. Il faut batailler. Devenir disciple de Jésus-Christ ne se limite pas à un savoir intellectuel, à une connaissance biblique. Alors, il est absolument indispensable de connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, tous les chrétiens doivent connaître la parole de Dieu. Ils doivent avoir assimilé la doctrine. Ils doivent savoir comment on est sauvé, qui est Jésus, qui est Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit ou qui est le Saint-Esprit pour être plus juste. Il faut connaître les grandes doctrines bibliques. Il faut connaître la parole dans sa progression. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable et Jésus en parle. Mais toute cette connaissance ne fera pas de moi un disciple de Jésus-Christ si elle reste là. Il faut qu'elle descende là. Il faut qu'elle descende au niveau du cœur. Il faut qu'elle passe dans mon comportement. Il faut qu'elle passe dans ma manière de vivre. Enseignez-leur à observer. À observer. Donc Jésus ne parle pas d'une connaissance seulement sur le plan intellectuel. Mais ça doit passer dans notre manière de vivre, dans notre manière de fonctionner. Je sais que Dieu n'aime pas le mensonge. Mais ça, cette vérité, elle doit changer ma manière de vivre. Si je sais que Dieu n'aime pas le mensonge, je vais le bannir de ma vie. Et on sait très bien que le mensonge est une tentation à certains moments. On pourrait sortir des fois tellement vite d'affaires avec un petit mensonge. Vous voyez, c'est un choix. Et là, on l'a fait descendre au niveau du cœur. Jacques écrit, ne vous limitez pas, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. La mettre au niveau du cœur est... Récemment, quelqu'un me disait, « Oh, la Bible, je la connais par cœur. » Alors, quand on me dit ça, moi, je prends peur. Et généralement, ceux qui parlent comme ça, ce sont des inconscients, des gens qui ne sont plus sur le chemin, parce que, justement, quand on la connaît bien, la parole de Dieu, elle nous responsabilise davantage. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 14, on connaît ce texte. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. » Reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour rejoindre notre pensée, afin que l'homme de Dieu devienne un vrai disciple. La parole de Dieu, je peux la connaître, mais elle doit produire des certitudes, des convictions. Et les convictions vont changer mon comportement. Ils vont changer ma manière de raisonner. Et ils vont me convaincre, me corriger, m'instruire dans la justice, etc., etc. Mais retenons-le, ne limitons pas la vie de disciple à une connaissance biblique. Les gens qui connaissent la Bible, on l'en connaît. Mais on sait très bien. Il peut y avoir dans notre vie un décalage entre ce que je connais et ce que je suis ou ce que je fais. Devenir disciple de Jésus-Christ ne se fera pas à l'écart des autres, ni sans les autres. Nous sommes à l'heure de l'individualisme, dans une société où il y a beaucoup d'enseignements qui visent l'épanouissement personnel. Et même des fois, vous avez un évangile qui va un petit peu dans cette tendance-là, qui vise le bien-être, qui veut vous faire du bien, etc., etc. J'ai souvenir, lorsque j'étais enfant, dans l'église où j'étais, alors j'étais là parce que j'étais obligé d'être là, mes enfants ne sont pas là, ils n'entendent pas ce que je dis. J'étais là, alors par contre, je repérais tout. Je repérais tout et j'avais repéré une dame qui venait à l'église, elle n'avait jamais salué quelqu'un. Elle arrivait avec un regard triste, toujours les yeux vers le bas. Personne comptait, elle allait et puis elle attendait l'imposition des mains, elle y allait, elle repartait. J'étais enfant, j'ai vu ça. Quand je me suis converti, c'était exactement la même chose. 20 ans plus tard, ou enfin, je ne sais plus combien de temps, mais bien des années plus tard, rien n'a changé. Je suis devenu pasteur dans cette église, toujours la même chose. Et je me rappelle un jour, elle est venue au bureau, et elle est venue et elle ne me regardait pas non plus. Elle était là, elle a commencé à parler de ses problèmes, et elle voulait ce que le Seigneur fasse dans sa vie. Et puis à un moment donné, quand elle parlait comme ça, je lui dis, mais elle me prend pour un psy. Elle ne me regardait pas, elle regardait en face, elle était assise de côté. Je lui dis, mais elle est complètement à côté. Mais ce qui m'a marqué chez cette dame, c'est que finalement, des années passées si près du royaume des cieux. Et finalement, ne pas expérimenter. Pourquoi ? Mais dans ce qui m'a marqué chez elle, c'est que les autres n'avaient aucune place. Et quand les autres n'ont aucune place, je ne peux pas devenir un disciple de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui donne une place. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on reconnaîtra mes disciples, a dit Jésus. Et ce n'est pas possible de devenir un disciple de Jésus-Christ sans établir des relations fraternelles, sans avoir de la communion fraternelle. Internet a fait beaucoup de mal dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'église.net. Vous avez le culte par Internet et vous avez des personnes qui pensent qu'en se nourrissant d'un culte, elles vivent l'Église. C'est faux. Je ne pourrai jamais devenir un disciple de Jésus-Christ si je uniquement avec une prêche ou des choses comme ça. Internet peut m'aider à piocher de bonnes ressources, mais je ne peux pas vivre l'Église sur Internet. Ça, c'est pas possible. Et je ne devais. Par expérience, j'ai vu que tous les chrétiens qui vivent sans église, ils cessent d'être des disciples. Par expérience, quand ils ne perdent pas leur salut, mais ils cessent d'être des disciples. Et ça, c'est très important ce que je dis là, parce que ça revient un peu sur le point précédent que je disais, mais une prêche, ça ne suffit pas, ce n'est pas ça le culte. Le culte, c'est d'apporter sa louange, de partager, d'être entouré. Oh, l'église, c'est... Et puis l'église, ça ne se vit pas qu'un dimanche matin, frères et sœurs. Mais ça se vit dans les autres réunions, ça se vit, dans le partage et tout au long de la semaine, on est en relation les uns avec les autres. C'est ça, la vie de l'église. Mais devenir disciple de Jésus-Christ ne se fera pas sans les autres et sans relation fraternelle. Et puis, un dernier point. Devenir disciple n'a rien d'ennuyant ni d'effrayant. La notion de disciple, tout à l'heure j'ai parlé d'élève, évoque quelque chose de scolaire. Le texte qui dit, Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, prenez mon joug, recevez mes instructions. Dans la version Sommer, c'est traduit, mettez-vous à mon école. Pour certains, ça peut avoir un effet. Quand j'étais enfant, on me disait, à l'école, on me disait, mais quand tu seras grand, que tu auras quitté l'école, tu regretteras. Ça fait 26 ou 27 ans que j'ai quitté l'école, je ne la regrette pas. Je suis désolé. Je suis content et je dirais, quand je vois les tonnes de devoirs que mes enfants ont, autant je continue à étudier, je prends plaisir à étudier, mais bon, mais l'école du Seigneur, c'est autre chose. C'est l'école de la vie. ça devait être quelque chose d'accompagner Jésus. Et Jésus passait par là, et oh, il y a un figuier, oh, ça. Et puis tac, derrière Jésus l'enseignait, parce qu'en plus il devait en connaître un rayon sur, hein, sur toute la vie qui était autour, et ça devait être palpitant. Et chaque occasion devenait avec Jésus l'occasion de découvrir quelque chose, et ben, c'est la même chose, on n'a pas Jésus physiquement, mais on a la possibilité de vivre et d'apprendre avec lui tous les jours. Et puis la vie de disciple, elle a rien d'ennuyant, au contraire. Jésus nous montre que c'est la plus belle des vies. Ah, c'est vrai qu'il y a, des choses qui peuvent un peu faire peur, parce que Jésus parle d'épreuves, de renoncement, de souffrance. Je me rappelle sur Nîmes, un jeune me disait, il ne voulait pas trop s'engager, il me disait, je ne veux pas trop m'engager parce que je vais être éprouvé. Alors je me rappelle de ma réponse, mais aujourd'hui je la ferai encore différemment. La réponse, je me dis, mais si tu ne t'engages pas, tu seras quand même éprouvé. Mais aujourd'hui, j'ajouterai, non seulement tu seras éprouvé, mais pas dans les mêmes objectifs. Celui qui ne s'engage pas, il sera éprouvé, mais pour sa survie. Tandis que celui qui s'engage et qui sera éprouvé, ça sera pour devenir meilleur. On a choisi, hein. Mais on ne doit pas avoir peur. C'est vrai que la vie, elle est difficile, mais elle est difficile pour tout le monde, la vie. Mais nous, on a celui qui va nous aider, qui va transformer les épreuves en source de bénédiction, qui va transformer les vallées de larmes en source de consolation, qui va nous amener par mener des combats, mais au bout, il y a des victoires, il y a l'occasion de découvrir, comme le texte qui a été lu tout à l'heure, hein, on sait que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu et qu'il va combler nos cœurs, nous amener à prendre la profondeur. La vie d'un disciple, c'est la meilleure des vies. C'est la meilleure des vies. Et nous ne faisons pas berner par le monde. Hein. Mais la vie d'un disciple de Jésus-Christ, c'est la meilleure. Et on ne veut pas... Je cite deux versets dans Acte 13, verset 52. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et quand vous regardez le contexte de cette déclaration, ça chauffait pourtant. Mais ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et rappelez-vous aussi cette réponse de l'apôtre Paul. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous devenez tel que je suis, à l'exception de ces liens. L'apôtre Paul est prisonnier. Et pourtant, il veut que c'est ceux qui étaient libres et qui étaient rois, leur disent, devenez comme moi. C'est pas beau, ça. Je veux dire, les rois disent, c'est toi qui dois venir comme moi. Non, non, que vous puissiez devenir comme moi, à l'exception de ces liens. Mais on sent que l'apôtre Paul, il vivait intensément. Et il se régalait dans cette vie de disciple. Frères et sœurs, la vie de disciple avec Jésus, c'est enthousiasmant. C'est exaltant. Mais oui, c'est difficile, mais c'est tout difficile pour tout le monde. Et on va vers des temps difficiles de toute façon. Mais la vie avec Christ, elle est enthousiasmante. Comprenons ce matin que devenir disciple de Jésus-Christ, c'est le meilleur des choix. C'est la meilleure des vies. Et que chacun, à notre niveau, on doit entrer dans ce chemin-là. Ma crainte, c'est que quelqu'un ne veuille pas. Dire non, moi je suis sauvé, ça me suffit. Un mauvais calcul. Hein. Mauvais calcul. Mais on veut devenir, faire des disciples. Mais déjà à notre niveau, on veut être des disciples de Jésus-Christ. Que son nom soit béni. On est heureux qu'il nous a appelés. Il nous a sauvés. Et on veut marcher avec lui, grandir avec lui. On va le prier maintenant.